Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on s'interroge sur tous les aspects de notre vie quotidienne jusqu'à midi en direct avec vous. Alors ce matin Julia, quelle sera notre grande thématique du jour, vous vous souvenez ?
Eh bien justement, j'ai hésité sur votre prénom en disant bonjour, mais c'était bien Mélanie. On va chouchouter nos neurones, nos méninges aujourd'hui. Ce matin, on vous pose cette question, avez-vous une bonne mémoire ? Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui, on va voir ensemble comment la booster, cette mémoire, quel que soit notre âge. Car oui, c'est à la portée de tous. On va vous livrer les conseils de plusieurs experts en la matière. Fabien Olicard, mentaliste et vidéaste, sera avec nous en studio. Ainsi que Florian Manicardi, les champions de mémoire et formateurs en mémorisation.
Ensuite, à 11h45, ce sera comme chaque jour notre partie tendance avec notre équipe de chroniqueurs. Il y aura Nathalie Le Breton d'abord pour sa chronique lecture jeunesse du mercredi. Ce matin, elle a choisi de nous présenter des livres qui vont nous aider à faire manger les enfants les plus difficiles à table. Et puis, on restera dans l'alimentation puisque Sophie Menu sera dans la bande du jour également. Et avec elle, on va se régaler avec un plat frais, apprécié de tous, le carpaccio. On va le revisiter un peu ce matin pour le plaisir des petits comme des grands. Voilà, bien fait pour vous, c'est parti.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good sur Europe 1. Et voici notre question du jour ce mercredi. Avez-vous une bonne mémoire, Mélanie ?
Oui, on va voir ce matin comment s'y prendre pour la booster ou simplement la raviver, notre mémoire, si elle montre quelques signes de faiblesse. Bien sûr, on n'ira pas sur le terrain pathologique, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on va apprendre comment stimuler notre matière grise quand, a priori, elle fonctionne normalement. Alors, pour débuter en beauté, chez lui, justement, tout fonctionne très bien de ce côté-là, je crois. C'est Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde, parce que je me suis entraîné, j'ai eu la chance de croiser Fabien Olicard. Il m'a donné il y a quelques mois des techniques. J'espère qu'il vous les donnera tout à l'heure.
C'est
à
une mission entre
numéro.
Potes en fait.
Non, mais j'ai été impressionné. Je me suis dit, mais comment on peut booster sa mémoire ? Et donc je l'ai écouté attentivement. J'ai appliqué exactement ce qu'il m'a dit avec des numéros ou des membres de sa famille, stocké des objets et j'ai gagné en mémoire. Je vous assure que c'est vrai. Donc écoutez cette émission, il va se passer plein de choses. D'abord, je suis allé dans la rue, comme chaque jour, et j'ai questionné les Français sur le sujet du jour. Avez-vous une bonne mémoire ? Parce que tous les jours, je pose des questions et la réponse que j'ai le plus, c'est...
J'ai oublié votre question.
Voilà. Alors oui, je suis bavard, je fais des longues phrases, mais la plupart du temps, vous pouvez redire la question. Donc, on va bosser la mémoire. Et je l'ai posé donc la question du jour. Est-ce que, oui ou non, vous avez une bonne mémoire ?
Je crois que oui, mais au vu de mon âge, elle devient de plus en plus défaillante.
Je dirais que oui, globalement. Après, ça dépend. Parfois, on retient des petites choses futiles, on ne sait pas pourquoi, et d'autres choses, moins.
Ça dépend pourquoi ?
Ça dépend, ouais. Moi c'est sélectif. Hein.
Alors on va apprendre comment ça fonctionne. J'ai moi-même des choses complètement inutiles. Je ne sais même pas pourquoi. J'ai par exemple le résultat du FC Nantes 94-95 sur toute une saison. Je ne sais pas pourquoi. Alors que l'année d'après, je ne l'ai pas du tout. Donc c'est vraiment
très
des choses comme ça. Et je ne suis pas le seul. J'ai demandé aux gens dans la rue. Alors c'est quoi le petit truc qui ne sert à rien mais que vous avez toujours en mémoire ?
Ah bah oui, dans le boulot, nous on travaille sur des codes dans l'immobilier, donc des codes de porte d'entrée, des choses comme ça.
C'était la plaque d'immatriculation de la voiture de mes parents. C'était 1664 TY31.
Et des poésies qui servent à rien. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Victor Hugo, que je sais pas à quoi ça me sert maintenant, mais je le connais.
C'est toujours là, alors souvent c'est lié à de l'émotionnel, on verra tout à l'heure. Et puis les numéros, on sait pas pourquoi, d'un seul coup on a un numéro qui nous revient comme ça. Moi c'est par exemple dans le film Ghost, vous pourrez regarder. À un moment, il y a un compte bancaire, c'est 926-31043. Je ne sais pas pourquoi
c'est vraiment ça ?
Mais je l'ai. Bah, vous regarderez
le
film.
On va le vérifier en
c'est
régime.
C'est exactement ça. Vous pourrez vérifier. Et puis, le numéro que vous retenez, alors, c'est quoi, vous ?
3630, le numéro du Père Noël, c'est rien. Mais je connais le numéro du Père Noël. Si je veux l'appeler ou quoi, Noël, je suis en galère, je l'appelle, moi.
Alors, souvent, on a ça. Ou puis, on a des dates, évidemment, qui sont liées à des événements personnels. Ouais. Et encore, faut-il avoir la bonne date ? Sinon, dans un couple, ça peut créer des problèmes. Si je pose des questions à un couple et qu'ils n'ont pas la même réponse.
C'était en décembre, mais quand, je sais pas. On l'a dit la dernière fois, le 6 décembre, 3 décembre, 5 décembre. Bref, c'est en décembre.
Trois essais, le 13 décembre.
Voilà comment un couple
a rompu. Moi, j'oublie tout le temps mon anniversaire
tout ça
de mariage.
Pour une chronique, c'est quand ?
C'est honteux. Ben, en août, mais je ne sais plus combien.
C'est vrai ?
Vous savez que ça fait 5 ou 6 ans, mais je ne sais
tant
plus.
Tant que ce n'est pas le prénom de votre mari.
Oui. Bon, c'est pas grave.
Eh bien, merci beaucoup, Clément.
Avec
On va
plaisir.
Maintenant s'attaquer à ce sujet avec nos experts ici en studio. Je vous présente d'abord Fabien Olicard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mentaliste, vidéaste et co-auteur avec le docteur Michel Simès du livre Mémoire, vous avez le pouvoir aux éditions First. Et à côté de vous, il y a aussi Florian Manicardi. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes carrément champion de mémoire et formateur en mémorisation avec la structure Mémorôle que vous avez fondée. Alors Florian, depuis quand vous vous entraînez cérébralement, c'est dur à dire, pour être un champion? Je sais pas, c'est comme un sport de haut niveau ou c'est inné chez vous au départ?
Alors, c'est totalement un entraînement. C'est comme un sportif de haut niveau. Je m'entraîne depuis 2019 pour les compétitions, mais j'ai découvert les techniques de mémorisation bien avant cela. Je les ai découvertes en 2017 grâce à un certain invité.
Ah oui, on est une émission de potes aujourd'hui, hein, grâce à Fabien.
Mais non, parce que je faisais des vidéos sur le sujet.
Voilà, ouais. Et on les voyait en
vous
se disant,
mais c'est
dingue.
Vous aviez quel âge à l'époque?
Alors, à l'époque, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans, j'avais 20 ans.
Ah, vous voyez, ans. Il s'en souvient plus.
Alors, j'étais en L3 de droit, ça c'est sûr, j'étais en L3 de droit. Et comme je n'avais pas vraiment de difficultés, mais comme on avait énormément d'articles, d'arrêts à retenir, j'ai cherché par hasard des techniques pour mieux mémoriser. Mais ouais. Non pas que j'avais des difficultés, mais juste comme ça, par curiosité. Et je suis tombé donc sur une vidéo de Fabien Olicard, qui parlait donc de la technique dont vous parliez, c'est-à-dire la table de rappel. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il faut aller plus loin, en fait. Il faut que je regarde quelles sont toutes les techniques existantes.
On va les détailler, les techniques, dans un instant. Mais ça veut dire que si moi, je décidais de me lancer demain, ou Julia, qui
moi,
sait, hein, dans le championnat
de
mémoire, et de vous détrôner, on en serait capable si on y mettait de l'entraînement et de l'énergie, quoi, on va dire.
Il faudrait de la préparation, mais oui, bien sûr.
Moi, c'est pas mal de préparation.
Je ne me souviens jamais de rien, même pas de mes rêves. Alors, va falloir m'aider, à Fabien Olicard. Vous êtes mentaliste, passionné par le cerveau. Ça fait combien de temps que vous vous êtes penché, vous, sur le sujet? Je crois que ça remonte, c'est ça, à vos années lycée?
Même avant, hein, dès l'âge de 8 ans. En gros, moi, à l'âge de 8 ans, ma mère, elle me fait passer un test de QI pour savoir si je suis un génie ou si je suis récupérable.
Et vous
parce
êtes
que
quoi,
j'apprends pas trop mes cours. Ni l'un ni l'autre, mais je suis très curieux, par contre, et je passe un peu d'un sujet à l'autre. Et sur ce test, on s'aperçoit que j'ai une bonne mémoire photographique. C'est-à-dire qu'il y a une partie du test qui est dédiée à ça. Et c'est une forme de mémoire un peu différente, parce qu'il n'y a pas vraiment de mémoire prédominante, hein, comme on dit, mais ça on y reviendra.
Et c'est quoi la mémoire photographique, par exemple?
C'est une mémoire éditique, c'est-à-dire que quand je regarde quelque chose, si je fais l'effort d'essayer de m'en rappeler, je vais m'en rappeler un peu plus précisément que la moyenne.
C'est
voilà.
Génial.
Et juste le fait de savoir ça et qu'on m'explique ça, ça stimule ma curiosité et je me mets à lire des bouquins de mnémotechnique que j'emprunte à la médiathèque, à la bibliothèque et tout ça. Donc j'ai 8 ans à ce moment-là et je trouve ça un peu marrant. En fait, j'ai l'impression de tricher. Quand on apprend ce genre de technique, on se met à tout retenir et tout le monde fait « Waouh, t'es trop fort !» Et toi, dans ta tête, tu dis « Ha ha ha, s'il savait à quel point c'était simple !» Et donc c'est comme ça que je commence tout petit.
Alors justement, on va voir si on lui met la honte tout de suite ou s'il est vraiment très fort. Clément Lanoux, j'ai les résultats. Donc Nantes, hein, 94-95. Le 29 juillet 94, c'est FC Nantes contre Lyon. Le score
À Nantes, alors le match retour, c'est 1-1.
Oui, c'est ça.
Et le match aller, je dirais 3-0 pour Nantes.
1er août 94, au Cerf, FC Nantes.
2-1.
Oui, c'est ça.
But de Wedek.
Ah bah, je vais pas aller jusqu'au but. Hein. Allez, on en fait un dernier pour voir si vous bluffez ou pas. Je peux aller plus loin dans la saison, vous les connaissez dans l'ordre?
Il y en a un ou deux que j'ai peut-être pas.
Allez, 23 septembre 84, Nice, FC Nantes.
Ah, je l'ai peut-être pas su, j'aurais dit 3-1.
Ouais, c'est ça.
En plus, il a mis du suspense.
Voilà,
il est très fort.
Allez, merci à tous les trois pour rester avec nous. On va continuer à s'intéresser à notre mémoire. Ce matin, on vous explique en détail déjà comment elle fonctionne. Et puis, on va vous apprendre également comment l'entraîner au quotidien pour développer les mêmes talents que Clément Lanoux. On va avoir un potentiel incroyable. On va vous donner le mode d'emploi dans très peu de temps. Donc, restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Ce matin, on vous pose cette question. Avez-vous une bonne mémoire? On fait le point avec Fabien Olicard, mentaliste et vidéaste, ainsi que Florian Manicardi, champion de mémoire et formateur en mémorisation. Alors Fabien Olicard, combien de types de mémoire différentes existent environ, hein, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences?
En fait, on a beaucoup de types de mémoire rangés dans deux grandes familles. Les mémoires à court terme, les mémoires à long terme. Mémoire à court terme, c'est comme la mémoire de travail, c'est durée de vie, on va dire 15 secondes au grand maximum. Je vous donne mon digicode de porte d'entrée, vous le tapez, la porte se referme, vous l'avez oublié. Ça, c'est une mémoire court terme.
Voilà. On voit complètement.
Et après, il y a plusieurs mémoires à long terme. Pour citer les principales, il y a la mémoire procédurale, c'est la mémoire du corps. Quand vous mettez la jambe droite devant pour marcher, vous vous demandez rarement quelle est la deuxième jambe à mettre ensuite. Ça, c'est la mémoire du corps. Elle est très efficace et très dure de rentrer dans cette mémoire. Par contre, c'est celle qui est le moins, qui est dégradée en dernier, par exemple, en cas de problème, de trouble.
C'est ça qui fait qu'on sait faire du vélo quasiment toute sa vie.
C'est pour ça qu'on dit, ça s'oublie pas, quoi.
Oui, par exemple, un musicien qui a sa guitare, vous dites, vous pouvez m'écrire la partition de tel morceau, il sait plus. Vous lui donnez la guitare, il trouve la première note et hop, tout s'enchaîne.
Ou le piano. Moi, j'en ai fait 10 ans, je sais plus rien jouer du tout, je ne joue plus. Mais à chaque fois que je me mets devant un piano, ça revient tout seul.
Ça, c'est la mémoire procédurale.
Et pour le digicode, alors parfois, c'est juste parce qu'il faut qu'on soit. On n'a pas le code en tête, mais il faut qu'on soit devant le digicode pour s'en souvenir.
Des fois, c'est un peu en procédural. Des fois aussi, c'est lié à l'hippocampe qui est une espèce de GPS de vos souvenirs. Et comme vous êtes de nouveau dans la bonne situation, il va raccorder des souvenirs de mémoire sémantique, ça, c'est la mémoire des données, ou de mémoire épisodique, c'est la mémoire du souvenir. Par exemple, vous savez ce que vous avez fait hier soir. Suivant la soirée, évidemment. Et ça, il n'y a pas besoin de le réviser, la mémoire du souvenir. D'ailleurs, c'est une mémoire que notre ami a beaucoup utilisée en tant que champion, je pense, la mémoire épisodique, la mémoire du souvenir, parce qu'on arrive, en fait, nous, avec des images, à trafiquer nos types de mémoire pour utiliser cette mémoire du souvenir qui est très efficace plutôt qu'une mémoire à court terme, par exemple. On peut passer de l'une à l'autre.
C'était la question que je voulais poser à Florian Manicardi. Quelle est la mémoire, vous êtes le plus performant, celle dans laquelle aussi également vous êtes le moins à l'aise, à votre avis?
Alors, même si c'est très psychologique, on va dire que ma mémoire visuelle est plutôt bien développée. En tout cas, je suis assez confiant. Pour preuve, lorsque je vois quelqu'un, je préfère voir son prénom écrit plutôt qu'on me le donne uniquement à l'oral.
Ça veut dire que... vous savez comment je m'appelle, là?
Oui, quand même.
Comment je m'appelle?
Julia.
Ouais, très bien. Mais comment vous l'avez retenu, par exemple?
Bah, j'ai regardé.
Je ne l'ai pas marqué.
Non, non, c'était écrit partout sur toutes les affiches.
Il y a des pancartes partout dans la radio, là. Non, mais c'est dingue. Et si je vous l'avais écrit et que vous ne l'aviez pas vu, et ça y est, je vous écris Julia pour une fois et vous l'avez pour toujours.
Alors, pour toujours, bon, il faudrait que je fasse des petits rappels de temps en temps. Mais en tout cas, c'est bien imprimé. Après, je vais utiliser une technique en plus pour justement imprégner votre prénom avec votre visage. Et je vais vous imaginer, par exemple, en train de faire le signe de Joule.
Ah ouais, pourquoi moi? Ah, parce que Julia.
Pourquoi Joule?
Bah oui, exactement.
Et Mélanie,
c'est pas au hasard. Alors, Mélanie, je suis désolé.
Aïe, aïe, aïe.
Je suis désolé. J'ai pensé à de la mélasse.
Oh.
Je suis désolé.
Vous savez que c'était mon surnom au lycée, mélasse. Bon, comment ça fonctionne d'ailleurs dans notre cerveau, la mémoire? On va demander quelques explications à un neurologue tout de suite. Le professeur Yannick Béjot est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes neurologue à Dijon. La mémoire, en avoir une bonne ou pas, est-ce que ça a quelque chose à voir avec nos neurones peut-être? Moi, je sais pas, je crois que vu mon âge, j'en ai peut-être un peu plus que Julia, par exemple, qui doit commencer à en perdre. Non, expliquez-nous s'il vous plaît.
Alors oui, tout à fait, ça a à voir avec les neurones, mais pas tellement par rapport à leur nombre, qui est assez similaire d'un individu à l'autre, mais la capacité dont l'individu va avoir à les avoir fait travailler ensemble pour qu'ils puissent communiquer par des réseaux, établir des réseaux et donc avoir une meilleure efficience dans le stockage des informations.
Et justement, dans quelle partie du cerveau on stocke les informations? Est-ce qu'il y a une zone en particulier? Est-ce que, par exemple, chez Florian, champion de mémoire, cette zone est plus développée que chez les autres?
Alors c'est avant tout dans l'hippocampe, ou plutôt on devrait dire les hippocampes, puisqu'on a deux hippocampes dans chaque hémisphère, qui est une structure un peu profonde située dans le cerveau, qui permet de stocker les informations. Et alors effectivement, Florian a sans doute une capacité de stockage plus importante, mais il l'a bien dit, il a aussi une capacité de récupération de l'information, puisqu'on peut avoir stocké une information et avoir des difficultés pour aller la chercher. Et donc il y a des stratégies qui se mettent en place en travaillant sa mémoire pour aller faire de la récupération et pouvoir vous sortir l'information que vous avez effectivement stockée.
Okay. Bon, professeur, puisqu'on a un médecin en ligne, on a des questions de parents, notamment de futurs bacheliers là, qui nous harcèlent en nous disant qu'est-ce que ça vaut ces compléments alimentaires qu'on voit en pharmacie partout, soi-disant boosters de mémoire. Est-ce qu'on doit gaver nos petits jeunes qui vont passer le bac avec ce genre de produits?
Alors je pense que non, je pense qu'il faut se méfier parce que beaucoup de ces boosters sont avant tout des molécules qui stimulent l'éveil et qui du coup peuvent perturber le sommeil. Je pense que surtout pour les bacheliers, il faut avoir une hygiène de vie régulière, heure de coucher régulière, heure de lever régulière et surtout avoir des moments aussi pour souffler, des moments de détendre, d'avoir un rythme, c'est surtout ça. Pour entretenir sa mémoire, il faut garder un bon rythme et éviter les excès dans un sens ou dans un autre.
Eh bien, merci beaucoup professeur Béjot pour cet éclairage. Fabien Olicard, je reviens vers vous. Comment on fait pour bien retenir quelque chose? Est-ce qu'il faut faire comme à l'école? Il faut réviser, bachoter encore et encore?
Bah, Il y a plusieurs réponses à ça. Déjà, pour rebondir sur ce que disait notre neurologue, effectivement, on n'a pas tellement de problèmes à stocker de l'information. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près 68 milliards de neurones. Il peut y avoir jusqu'à 100 000 connexions par neurone. On a 10 puissance 15 connexions, c'est les synapses, qui vont créer des réseaux de communication. Et toutes les stratégies qu'on utilise, Florian ou moi, ça va être des stratégies pour baliser un peu le chemin avec un flambeau et pour accentuer, on va dire, renforcer la trace mnésique. C'est la trace mnésique qui va s'affaiblir dans le temps et qui va faire que les informations existent encore, mais se déconnectent entre elles. Bon, tout ça, on en parle dans le livre, mais c'est important de le comprendre parce que du coup, tout à l'heure, Florian, il a dit « Oui, je vais le retenir un moment, mais si je ne repasse pas sur l'information, je vais la perdre. » C'est la trace qui s'efface. Donc, il y a une courbe d'oubli, il faut y penser pour revenir. Alors, la meilleure manière de mémoriser, première chose, on s'intéresse réellement en donnant de l'attention. Deuxième chose, on cherche à la comprendre. Et troisième chose, on utilise des stratégies comme nous, on peut utiliser, qui vont être des béquilles mentales. La table de rappel, le palais mental, la mnémotechnie, Florian en parlera sûrement tout à l'heure, qui vont être des béquilles au départ pour stimuler cette trace mnésique.
Comment on explique qu'on est, par exemple, Julia, je vous inclus dans le truc, mais oubliez tout ce qu'on avait appris pour le bac, parce qu'on connaissait bien à ce moment-là, mais on a tout oublié. On a entendu tout à l'heure chez Clément Lanoux quelqu'un qui se rappelait d'une poésie de Victor Hugo. Moi, je les ai oubliés aussi. Enfin, ce début-là, je le connaissais, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines choses qu'on va fixer comme ça, qu'on a appris à l'école par exemple, et d'autres qu'on va totalement oublier?
L'un des ciments essentiels, ça reste quand même l'attention et l'émotion.
Il a dû aimer Victor Hugo, voilà, quand il l'a entendu à l'époque.
Ou alors que peut-être quand il apprenait cette poésie de Victor Hugo, c'était pendant son premier crush à l'école. Donc il y a eu une émotion particulière qui a fixé ce moment. Il y a eu de l'attention en tout cas. Et ça, c'est vraiment comme les videurs de la boîte de nuit de la mémoire. L'attention et l'émotion qui dit toi tu rentres. Exactement, toi tu rentres pas. C'est les deux physios. Et d'ailleurs, on le voit même à l'échelle de toute l'humanité. On a une mémoire flash qui est liée à l'émotion. Un souvenir flash, c'est par exemple, on sait tous ce qu'on a fait le 11 septembre. Parce qu'on a été choqué à ce moment-là. Donc, émotion très forte, on s'en souvient.
Ah là là, donc la mémoire est liée à l'émotion. Merci déjà de nous avoir éclairé sur ce sujet. On va continuer évidemment à prendre soin de notre mémoire. Donc vous restez avec nous, car oui, on est tous capables potentiellement de stocker facilement des centaines de chiffres, par exemple. Même si aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir une mémoire de poisson rouge, c'est pas une fatalité. Et on va vous révéler les secrets de ce pouvoir insoupçonné qui sommeille dans votre cerveau. Alors pour en savoir plus, restez bien avec nous à l'écoute sur Europe 1.
Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ce matin, on apprend ensemble comment booster notre mémoire. Et pour en parler, ils sont toujours avec nous. Florian Manicardi, champion de mémoire et formateur en mémorisation. Avec nous ce matin également, Fabien Olicard, mentaliste et le co-auteur avec Michel Simès du livre « Mémoire, vous avez le pouvoir » aux éditions First. Alors Fabien Olicard, je crois que vous avez un moyen imparable. Et ça, ça va intéresser beaucoup de monde, d'associer un nom à un visage, et on parlait de Philippe Vandel, je pense que ça peut l'aider.
Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont quasiment carrément prosopagnosiques, qui est une maladie, ou du moins un trouble qui empêche de bien encoder les visages. Mais en général, tout le monde se dit, moi je retiens jamais les visages, je retiens jamais les prénoms. Alors, on va se le faire en 5 points très rapides. Premier point, on se dit intérieurement qu'on a envie de rencontrer la personne. On se dit je veux connaître son prénom. Ça fixe l'attention, c'est quand même la règle de base. Après, du coup, on écoute la réponse plutôt que de penser à ce qu'on a envie de dire. Ensuite, on le répète au moins une fois, par exemple, enchanté Julien, enchanté Mélanie. On fait une boucle phonologique, on s'entend le prononcer. Donc on travaille toutes les mémoires en même temps. Ensuite, et là je sais que Florian fait pareil, on imagine quelque chose de rigolo, on crée de la
mélasse
connexion
avec Mélanie Gomez.
Voilà, on dans le cerveau. Exactement, si quelqu'un me dit je m'appelle Guillaume, je vais l'imaginer au téléphone parce que Guillaume tel, tu vois. Et vous entendez votre réaction de c'est nul sa blague.
Non, c'est génial.
Ça c'est de la bonne émotion pour le cerveau, ça cimente tout ça. Et puis la dernière chose, eh bien on va lutter contre la courbe de l'oubli. Si plus tard on a envie de dire passez-moi le sel, eh bien on va dire passez-moi le sel Guillaume s'il vous plaît. Merci Guillaume, et on répète le prénom parce que on renforce toujours cette trace mnésique.
Et pour ça marche pour les visages et pour les prénoms, ça marche pour les associés.
Oui, ça marche les deux, ça marche les deux, parce que même sur le visage, on peut se dire ah tiens, il me rappelle un tel, et en fait, on essaie toujours d'associer les données qui sont déjà présentes dans notre cerveau à des nouvelles données qu'on va faire rentrer.
Alors, il y a aussi un truc que les champions de mémoire utilisent, c'est le palais mental. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est quoi exactement, Florian? Est-ce que ça, tout le monde peut l'utiliser, ou est-ce que c'est réservé aux pros comme vous?
Alors, tout le monde peut l'utiliser. Et vous avez besoin que d'une seule chose. Une seule chose. C'est un domicile. Bon, ça en normalement, ça devrait atteindre le plus grand nombre. Le principe, c'est quoi? Tout simplement, vous prenez un lieu que vous connaissez. Donc, en général, on prend son domicile ou son lieu de travail. et on va déposer des images à l'intérieur de cette pièce. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux me souvenir de vos prénoms, je vais, par exemple, visualiser... Alors, bon, chez moi, c'est un palais bien spécifique. Je vais prendre mon palais entraînement, c'est-à-dire celui que j'utilise pour les compétitions. Eh bien, je vais, par exemple, imaginer Julia qui est en train de faire le signe. Et tout d'un coup, elle a les doigts mais qui sont... Ah, ils sont collés, ils sont... On ne sait pas ce que c'est parce qu'ils sont remplis de mélasse. Et je vais imaginer cette histoire dans mon palais mental. Enfin, pour être plus précis, je vais l'imaginer dans mon lycée. Hein? Dans mon ancien lycée. Je vais l'imaginer dans mon ancien lycée. Et à partir de ce moment-là, je saurai exactement où récupérer les informations. Tout ce que j'aurai à faire, en fait, c'est de revisualiser mon lycée. Je dis, ok, je rentre dans mon lycée. Mm-hmm. Et là, qu'est-ce que je vois? Et je vous vois avec les doigts collés. Et je pourrai me souvenir de vos deux prénoms.
C'est dingue. Ça vous plaît, Julia?
Ah, j'adore.
Les doigts coincés, la mélasse, tout ça. Non,
mais je suis fascinée.
Mais c'est vrai. Si je peux rebondir dessus, oui. ce qu'il vient de faire, en fait, il a créé un souvenir. Quand je vous disais tout à l'heure, le cerveau ne fait pas la différence. C'est rentré tel un souvenir. Et il sait où est-ce qu'il a mis cette information. Il peut rentrer comme ça directement dans ce souvenir. Je vais vous raconter un truc rigolo. Plus les images, elles sont bizarres, mieux on les retient. Au 19e siècle, du coup, des gens visitaient des églises et des cathédrales pour se créer leur palais mental. C'était un savoir qui se transférait. Et l'église, à un moment donné, a interdit l'utilisation de cette technique parce que, vu les images qu'on se faisait dans la tête, ils se disaient que c'était un truc d'hérétique. Et qu'il fallait arrêter de faire ça parce qu'ils se disaient, mais ils mettent n'importe quoi dans leur souvenir d'église. C'est terrible, quoi.
C'est drôle. Alors, justement, pour illustrer encore un peu plus ce que l'on dit ce matin sur la mémoire, on a un autre jeune champion en ligne avec nous. Alors, lui, plutôt sur les chiffres, on va voir. C'est Amine. Bonjour Amine.
Bonjour.
Alors avec votre frère Yacine, vous excellez-vous en calcul mental à seulement 16 ans. Le fait de mémoriser tous ces chiffres, est-ce que c'est inné? Est-ce que vous vous entraînez depuis tout petit? Comment ça a démarré pour vous?
Alors par rapport à la mémoire en général, on avait déjà des prédispositions quand nous étions petits. C'était assez facile pour nous de mémoriser par exemple un extrait de texte ou une poésie. Et par contre, en ce qui concerne les chiffres, c'est bien évidemment pendant et après l'utilisation du boulier que ce type de mémorisation est venu.
Alors c'est quoi le boulier justement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors le boulier, tout simplement, c'est on peut dire que c'est une calculatrice manuelle. C'est un objet qu'on utilise pour calculer des chiffres, des assez grands chiffres et rapidement.
Par exemple, vous êtes capable, je sais pas, pour nous épater un peu, qu'est-ce que vous calculeriez que moi je suis impossible de j'arriverai jamais à faire?
Bah par exemple l'addition de plusieurs dizaines d'affilée à une vitesse assez rapide.
Je peux vous faire un petit test là ou pas?
Oui, bien sûr.
23, donc on calcule en même temps en régie. Hein. 23, 47, 58, 102 et 43 encore.
273.
Ben, c'est exact. Je n'ai évidemment pas calculé moi-même, j'en suis incapable, mais en régie, on a fait la calculatrice en même temps et c'est parfait. Je crois que vous avez créé également un centre de calcul mental à Montpellier, ça s'appelle le CCMM. Pourquoi l'avoir créé et qu'est-ce qu'on y fait dans ce centre?
Tout d'abord, alors notre mère avait testé la méthode Abacus avec nous, et ensuite, comme elle a vu qu'on avait des résultats, on progressait assez rapidement, elle s'est demandé pourquoi ne pas justement partager cette méthode avec d'autres personnes. Et du coup, bah, de fil en aiguille, on a avancé jusqu'à créer ce fameux centre de calcul mental.
Et vous arrivez à faire progresser des gens qui arrivent et qui sont tout nuls au début et qui deviennent des champions de calcul?
Alors, les élèves, par rapport aux élèves, il y a un peu de tout. Il y a des élèves normaux, hein, dits normaux, et il y a des élèves qui ont, c'est vrai, un peu plus de difficultés, ou bien des surdoués, ou des hauts potentiels, je préfère dire hauts potentiels. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ont à peu près tous le même niveau. Ils arrivent tous à un même niveau, peu importe leur niveau de départ.
Très bien, bah écoutez, avec Julien, on viendra faire un petit stage chez vous. Je pense que ça ne nous fera pas de mal. Merci beaucoup, Amine, d'avoir été avec nous. Bonne continuation.
Merci, au revoir.
Merci Fabien. Alors on parlait à l'instant du boulier, un outil ancestral pour apprendre à calculer. Mais est-ce que les nouvelles technologies, par exemple les smartphones, sont vraiment aussi mauvais qu'on le dit pour la mémoire? Parce que c'est vrai que quand on cherche un truc, on se creuse pas trop la tête, quoi.
Alors, on ne le sait pas encore vraiment parce que les études sont très récentes en fait sur le sujet. On n'a pas un si grand historique que ça. Nous, on sait une chose, quand je dis nous, moi je ne suis pas spécialiste, hein, je lis les documents des spécialistes et je reverse l'information. On sait que ça pourra poser potentiellement des problèmes dans le sens où on casse le processus de récupération. Quand Florian retourne dans son palais mental pour aller rechercher vos prénoms, il se passe des choses quand même dans le renforcement de tous les circuits, de la mémoire, et ça, ou des mémoires d'ailleurs.
Ça, il se muscle.
Bah, en tout cas, on sait que la mémoire et le cerveau d'une manière générale, tout le principe cognitif, hein, ça va au-delà de la mémoire, ça s'use que si on s'en sert pas. Ouais. Donc, le fait qu'on court-circuite en se laissant pas le temps de laisser remonter l'information, en s'offrant pas la chance de retrouver l'information par nous-mêmes, on sait que si jamais c'est pas mauvais, en tout cas, ça peut pas être bon. Alors, dans le doute, ce serait peut-être bien de se passer de Google parfois.
Après, si je peux me permettre, parce que c'est quelque chose qu'on me sort souvent, c'est-à-dire, ah oui, c'est vrai qu'avec mon téléphone, je fais moins travailler ma mémoire. Après, je ne pense pas que ce soit... Enfin, évidemment, si on est complètement dépendant de son téléphone, bon, si on est un véritable zombie, là, ça devient problématique. Mais... J'ai l'impression, quand on dit ça, que c'est-à-dire que la seule façon d'entraîner sa mémoire, c'est retenir des numéros de téléphone. Oui. Parce qu'à chaque fois, on me sort cet exemple. Alors que je me dis, mais il y a énormément de choses. Bah, voilà, enfin, je veux dire, justement, si on peut se décharger de certaines informations, pourquoi pas ? Profitons-en. Il y a plein d'autres informations qu'on peut mémoriser. Et par exemple, voilà, les visages. Voilà, on peut pas
c'est
encore
quand même
dire
plus
alors, comment vous vous appelez. Alors, ouais, non, on a
quoi
pas encore...
que bientôt on pourra, il y aura sûrement de la reconnaissance faciale partout.
Voilà, bon,
moi j'ai besoin que vous m'aidiez, Florian, parce qu'il y a une tâche administrative qui me passionne pas, que je dois faire depuis 15 jours, qui est en rappel tous les jours sur mon téléphone et que j'oublie tous les jours. À chaque... Non, celle-ci c'est fait. Mais j'en ai une autre. Et bref, comment je peux faire pour m'en rappeler en enlevant ce rappel? Bon, vous pourrez me dire, faites-la la tâche et puis ça sera réglé. Mais est-ce qu'il y a un moyen pour que j'évite de me mettre ce rappel et que je m'en rappelle, quoi, tout simplement?
Une vieille astuce de grand-mère. Dessinez une petite croix sur votre main ou alors vous attachez un petit élastique autour de votre doigt. Pourquoi ? Ben c'est tout simplement pour, on va dire, vous marquer. Vous dire, qu'est-ce que ça fait là ?
Je faisais le truc sur la main quand j'étais plus jeune. C'est vrai, ça marche bien.
Casser la routine, c'est le fameux nœud dans le mouchoir. Inspiré de cette technique, moi, ce que je fais, c'est que je change mon code de déverrouillage de téléphone. Et donc, je vais pour le déverrouiller, ça ne marche pas. Et je me dis, ah oui, je l'ai changé parce que je m'étais dit, il faut absolument que je fasse ça.
Mais moi, jamais je le retrouve, le code. Je ne peux pas faire ça.
Oui, mettez 1, 2, 3, 4, ça suffira. Hein. Faites-vous pas de piège, hein, c'est pas le propos.
Exactement. Bon, bah, merci beaucoup. Hein. On aurait pu continuer pendant des heures.
On en fera une autre, hein, je crois.
Ouais, franchement, merci pour tous ces conseils et pour cette plongée dans les coulisses de notre mémoire. C'était vraiment très intéressant. Merci. Julia, si je me souviens bien, on va maintenant passer à la séquence tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord la chronique lecture jeunesse de Nathalie Le Breton. Ce matin, elle a choisi de nous présenter des livres qui vont nous aider à faire manger les enfants les plus difficiles à table. Et puis, on restera dans l'assiette et même dans la bonne assiette avec Sophie Menu. Aujourd'hui, elle nous propose ses meilleurs conseils pour réaliser un bon petit carpaccio. Cette saison, c'est frais. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être. C'est tous les matins de 11h à midi en direct. Alors à présent, on va débuter notre partie tendance, ces bons plans pour prendre encore davantage soin de vous et de vos proches. Et pour cela, elle est déjà avec nous, c'est Sophie Menu. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Avec vous dans quelques minutes. Que va-t-on cuisiner aujourd'hui? Un truc complètement en accord avec la météo, je crois.
Tout à fait, un carpaccio. Enfin, des carpaccio. Vous en voyez d'ailleurs des tas, hein, que je vous ai apportés sur
les tables. Nous conseiller pour le réussir aussi.
Exactement.
À la maison. Alors vous restez avec nous, Sophie, d'autant que je suis sûre que les bouquins de Nathalie Le Breton vont vous plaire particulièrement aujourd'hui. Ah, les petits plats, les bons plats, on en parle souvent dans Bienfait pour vous, avec grand plaisir, mais avec nos enfants, les repas sont parfois, voire souvent, des sujets qui apportent quelques tensions. Heureusement, des livres pour enfants existent sur ce sujet.
Oui, et Sophie Menu sait bien que, effectivement, le sel de la vie, quelquefois, c'est un peu piquant du côté des familles, du côté des parents, quand ça ne se passe pas comme on veut, parce que tout simplement, bien manger, c'est bien grandir. Donc, ça fait appel à nos compagnons de parents, et d'un seul coup on a l'impression qu'on est moins bon parent, voire nul, si notre enfant ne mange pas comme on voudrait qu'il mange.
Ça c'est sûr, et puis en plus ça commence dès le plus jeune âge, non ça, Nathalie ?
Oh oui, ça commence dès le plus jeune âge. Alors on va mettre de côté tout ce qui est problème allergique, où là je vous conseille bien sûr de voir un pédiatre ou un médecin nutritionniste, mais entrons dans la crise des 2 ans, les terrible tous, mais
non,
oui,
non,
bien
non.
sûr.
Les brocolis, non, les haricots verts, oui. non, mais les pâtes ils disent toujours oui. Hein.
Ils disent toujours oui, c'est vrai que c'est un moyen pour eux de s'affirmer. J'ai un excellent bouquin pour les petits qui s'appelle « Mange mon ange ». C'est super, c'est sorti chez le Père Castor. Vous parliez psy tout à l'heure et c'est Flore Brunelet et Madeleine Brunet. C'est un très bon livre. L'histoire est racontée du point de vue de cette petite fille. Et cette petite fille, c'est bonheur les repas parce qu'elle a trouvé un moyen là de se garder son petit papa à disposition, bien sûr.
Ah oui.
Alors le papa se fâche, il n'y a rien à faire, elle rigole, etc. Et donc c'est un enjeu pour le papa. Et c'est un jeu pour l'enfant. Il n'est pas fou, ce père. Il décide de s'extraire, de se cacher, tout en maintenant son attention. Et là, la petite fille, là, elle continue de s'amuser, elle se bariole, la purée de haricots verts sur les cheveux, sur la chaise, elle en donne au chat, etc. Sauf qu'à un moment donné, jouer toute seule, il y a un petit peu d'ennui,
c'est ça,
malgré tout. Puis surtout, elle a faim. Et donc, elle va se mettre à manger par elle-même et elle va avoir de cesse de retrouver son père pour jouer, mais dans sa chambre. C'est plutôt bien vu. Et ça nous montre surtout qu'en tant que parents, il ne faut pas se laisser, il faut une forme de fermeté, bien sûr, et ne pas se laisser avoir par l'idée que les enfants vont être affamés. A priori, les enfants bien portants ne se laissent pas affamer.
Bon, et puis notre combat de parents, c'est la diversité, leur faire accepter de goûter et manger de tout. Ça, c'est vraiment pas évident. Je vous aide sûr, hein, ça commence à 2 ans, mais ça se termine même pas à 5 encore. On en est convaincus en théorie qu'il faut les aider dans la pratique. Et on est pressés aussi, nous parents, faut l'avouer. Bah, surtout
par nos vies.
Voilà. Comment on s'y prend alors? Bien parce sûr. Que parfois, je dis, bon, bah, c'est pas grave, ça sera encore des pâtes.
Et là, je me suis dit, mais bon sang, manger, c'est quand même vivre, c'est quand même parler, c'est quand même se raconter, en apprendre sur l'autre. Et je me suis dit, mais en tant que parent, moi, dans tous ces livres de recettes qui existent, et de ces Sophie, ils sont innombrables.
De plus en plus.
Y en a un qui me plaît bien, il s'appelle « Ils étaient faits l'un pour l'autre ». C'est sorti chez Thierry Magnier. C'est super, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de revisiter des vieux classiques qu'on a oubliés, les petits pois carottes, les sardines à l'huile. Vous voyez, des choses tellement classiques. Et ils ont décidé, dans ce livre, de redorer le blason de ces mêmes.
Génial, parce que chez moi, ça marche pas du tout, ces trucs-là.
Alors, c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire, on redore le blason et là, il y a de la diversité. Sardine à l'huile, caramel au beurre salé, par exemple. Donc, il y a le blason, donc que de l'image, pas de texte. Et il y a une histoire derrière. Les beurres salés, par exemple. Imaginez l'île de Noirmoutier, le passage du Gois. L'eau se retire, il y a des carrés qui apparaissent. Des moines qui se disent, mais c'est carré, recouvert de sel. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, ça donne des caramels. Caramel au beurre salé. Une histoire et deux recettes. Donc, il y a un côté un peu désuet avec les dessins. Mais il y a des mots, des souvenirs. Et effectivement, il n'y a rien de tel que la transmission par nos goûts, par nos dégoûts, par nos bons souvenirs autour des repas à partager ensemble.
Et pour les plus grands, Nathalie, je crois que vous avez choisi un livre, mais plus documentaire. Hein.
Mais oui, parce qu'il en faut pour tous les goûts avec les enfants, en matière de repas, mais aussi en matière de lecture. Et que certains, en grandissant, eh bien c'est l'âge, après 8 ans, où on a envie de se connaître, à l'intérieur de soi, comment ça fonctionne, tout ça. Et il y a une question de respect de soi et aussi de respect de l'autre. Et le respect de soi passe par le fait de se connaître et évidemment manger et après, sorti aux éditions du Ricochet. C'est une édition qui a l'art et la manière d'aborder les sujets scientifiques sur en gros et après manger la digestion, comment ça fonctionne, tous ces muscles formidables, le super-héros qui est notre corps, qui fabrique des enzymes, qui transforme tout ça, qui nous fait faire des proutes et ensuite des cacas, éventuellement des pipis. Donc non seulement ça la fait rire, mais en plus, ils ont une compréhension d'eux-mêmes. Mais ça dit quoi, un petit peu plus sérieusement? Ça dit que tu vois, t'as un super-héros, c'est ton corps, il marche bien. Voilà comment il marche quand tu absorbes des bonnes choses. Et finalement, notre seul travail, c'est d'amener de la qualité au corps si on veut rester un super-héros en bonne forme, avec une condition, bien sûr, prendre le temps de mâcher.
Merci beaucoup Nathalie pour ces chouettes lectures à dévorer des yeux. On retrouve ces références sur europe1.fr et parmi les sélections que vous concoctez chaque mois dans vos box notissées au thon. Allez, on continue dans la gastronomie avec vous Sophie Menu. Et sur la table ce midi, vous nous proposez un truc que j'adore, le carpaccio.
Le carpaccio, alors comme vous dites Mélanie, c'est vrai que dès que les beaux jours arrivent, on les retrouve tous sur les tables des terrasses des restaurants. Alors Julie a déjà commencé, je vous en ai apporté 3 aujourd'hui. Parce que comme le dit Nathalie, bien manger c'est bien vivre. Alors vous en avez un qui est au saumon, il vient et piment d'Espelette.
Il est posé
à côté de Nathalie.
D'accord.
Alors celui-là, il est préparé par le Grand Café Capucine. Vous en avez un qui est juste à côté de moi que je vais vous faire passer, qui
c'est
est au bœuf Black Angus. Hein, c'est une qualité de bœuf exceptionnelle, capre, parmesan et riquette.
Moi, je vais goûter celui-là.
Du chef du Lancaster. Et alors, le chef Enzo, italien du restaurant Darocco à Paris, est venu nous le préparer en direct.
Lequel? Celui-ci, on va goûter
celui-là
après, alors.
Et celui-là, il est avec un coulis de pesto, en fait. Donc, vous en avez 2 au bœuf
et un au saumon, c'est quand même chouette. Hein. Merci beaucoup à tous ces chefs qui se sont cassés la tête pour nous.
Et c'est quoi l'histoire de ce plat, en fait ?
Alors, l'histoire de ce plat, c'est l'histoire où il est question d'un cuisinier, d'une comtesse et d'un peintre. Alors, la recette du carpaccio a vu le jour à Venise, la cité des Doges, en 1950, dans le célèbre établissement que vous devez peut-être connaître, le Harris Bar.
Ah ben oui.
Vous connaissez peut-être.
Évidemment.
Alors, en fait, à l'époque, ce restaurant était tenu par un chef qui s'appelait Giuseppe Cipriani, et d'ailleurs c'est toujours sa famille qui tient ce restaurant. Le lieu existe toujours, évidemment. Alors c'était un endroit où toutes les stars, Hemingway, la célèbre mécène Peggy Guggenheim allaient déjeuner, Charlie Chaplin, et un jour, une comtesse arrive en fait là-bas.
Mais c'est pas le Harris Bar qui a inventé le Bellini ?
Si, exactement. En fait, ils étaient très inventifs. Le Bellini, vous savez ce que c'est, Nathalie ? Non. Champagne et crème de pêche, c'est délicieux. Ça aussi, ça fait partie des cocktails des beaux jours. Mais donc, avant d'inventer le Bellini, ils ont inventé le carpaccio parce qu'une comtesse arrive déjeuner un jour et elle dit au chef « Mon médecin m'a recommandé de manger de la viande crue parce que je suis un peu fatiguée en ce moment. Il pense que ça va me faire du bien. » Et Giuseppe, il se dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui préparer ? À l'époque, on n'avait jamais mangé de la viande crue comme ça. Donc, il a l'idée d'étaler de la viande très finement sur une assiette, comme c'est là maintenant, d'ajouter un trait de citron, de l'huile d'olive, un peu de sel, un tour de moulin à poivre, et le tour est joué. Le rouge flamboyant de la viande lui inspire le nom du peintre qui est exposé à cette même période à Venise, qui s'appelait Vittore Carpaccio, et qui utilisait en fait ce rouge spécial dans tous ses tableaux.
D'accord.
Et du coup, Giuseppe se dit, mais voilà, je vais l'appeler le carpaccio. Et c'est devenu un plat mythique qui a fait le tour du monde. Des carpaccio, on en trouve maintenant aux légumes, aux poissons, à la viande. Est-ce que vous vous régalez ?
C'est vraiment délicieux. C'est qui le chef, donc ?
Alors ça, c'est Enzo, le chef de Darocco.
Merci Enzo, on vous aime beaucoup. Et celui au Capre est délicieux également.
Ouais, celui au Capre est délicieux. Merci au chef Sébastien Giroux de l'hôtel Lancaster.
Et Nathalie, le saumon ?
Et le saumon, elle le garde pour elle.
Non, je le partage avec les copines.
Il vient du Grand Café des Capucines.
Eh bien, génial.
Bon, on veut une recette originale maintenant, on vous écoute.
Je vais vous donner la vraie recette du Harris Bar, parce que Giuseppe est... me l'a donné, ou presque. Alors, maintenant, ce qui est plus simple, c'est que tous les bouchers, pendant la belle saison, vous proposent de la viande déjà coupée en tranches.
Ça,
parce
c'est pratique. Hein.
C'est compliqué. Même Mélanie, vous qui aimez bien
j'achète
cuisiner.
J'achète déjà coupée chez le
voilà,
boucher.
Parce qu'il faut la congeler, il faut la couper en tranches fines, il faut mieux avoir un trancheur. On n'a pas tous un trancheur, donc on part sur l'idée que même Julia va pouvoir poser cette tranche fine sur son assiette.
Vous restez chez votre boucher, non ? J'imagine les assiettes déjà toutes précoupées, c'est super. Après, il n'y a plus qu'à assaisonner. Non ?
Exactement.
Bon, elle le mange au bistrot, je crois. Elle ne le fait même pas chez elle.
Et c'est ça. Et Mélanie, c'est l'assaisonnement qui est le plus important dans le carpaccio. Alors, écoutez bien cette recette. Vous fouettez un jaune d'œuf avec de la moutarde, plutôt moutarde Coleman's, si vous connaissez, c'est une moutarde anglaise. Vous ajoutez en mince filet 8 centilitres d'huile d'olive, comme pour une mayonnaise. En fait, ça commence du coup à épaissir. Vous rajoutez la moitié du jus de citron, la fameuse sauce anglaise, la Worcestershire sauce.
Je ne sais pas le dire à chaque fois.
Donnez un petit coup de Worcestershire sauce.
Vous allez le dire, Julia ?
Non, Worcestershire.
C'est presque une petite goutte de lait. Et en fait, ce que vous faites...
Ah, du lait dedans, d'accord.
Ouais, et ça va donner une petite sauce crémeuse. Vous assaisonnez évidemment sel et poivre. Et en fait, vous prenez un petit cornet, si vous avez, ou vous avez peut-être ça, Mélanie, une petite poche à douille avec un embout fin. Oui. Et vous croisez cette sauce sur le carpaccio. Vous faites des quadrillages comme ça. Ça, c'est vraiment la vraie. Alors, on est presque à Venise, non ?
C'est clair.
Au Harris Bar.
Nathalie, vous aimez
avec
bien
un verre de Bellini ?
Oui, j'adore ça.
À Nice, on doit manger ça. Hein.
Absolument, pas plus tard qu'hier, voyez-vous.
C'est vrai ? Et vous êtes plutôt saumon ou bœuf ?
Non, là, j'ai été viande. Ouais. Et je me suis régalée dans une des très bonnes adresses de Nice.
Romain des Arbres, c'est devenu, dans ce
c'est devenu un nom générique.
Romain des Arbres, est-ce que vous aimez le carpaccio ? Lequel est votre préféré ? Poisson,
oui.
Viande ?
Plutôt. Enfin, j'aime bien le traditionnel, puis les carpaccio. Ouais. Il y a les carpaccio aussi de coquille Saint-Jacques. C'est
oui, de fraises, maintenant. En fait, fraises, c'est devenu un nom qui veut dire quelque chose coupé très fin et assaisonné.
Ananas, on peut même faire de carpaccio en
dessert. Si je vois l'état de l'assiette de Julia, le carpaccio de bœuf a l'air bon.
Elle a aimé. Il vous reste un peu de salade, si vous voulez, Romain.
Non, mais après, pourquoi pas.
Allez, merci, merci beaucoup, Sophie, pour la
merci
mise en appétit.
Vous.
Enfin, Julia, ça y est, elle a mangé. Moi, j'ai plus faim. Nous, on n'a plus qu'à passer au fourneau et à table. Voilà, notre émission touche à sa fin. Nous serons évidemment de retour demain dès 11h. Et Julia, on va s'intéresser à quoi demain?
Eh bien, qu'est-ce qu'on a tous les jours sur la table, Mélanie, justement? Eh bien, de l'eau. On va parler de l'eau. Elle peut être plate, gazeuse, minérale ou de source. On sait qu'on doit en consommer environ 1,5 litre par jour. Mais pourquoi véritablement est-elle aussi essentielle à notre organisme et notre bonne santé? On va voir également comment bien la choisir.
En attendant, on va laisser la place à l'info sur Europe 1, car à présent, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Quel est le programme, Romain?
On va parler de beaucoup de sujets, évidemment, notamment de l'inflation. L'inflation qui grimpe, qui monte en puissance en France, mais également un peu partout en Europe. Il y a eu cette proposition faite ce matin par Fabien Roussel du Parti communiste. C'était sur Europe 1 dans la matinale. Il a demandé d'augmenter immédiatement les salaires et les retraites pour faire face aux prix qui montent. Est-ce que c'est la bonne solution? C'est l'un des sujets qu'on va développer dans Europe Midi.
Merci beaucoup, Romain. À tout de suite.
À tout de suite.